Voici, chers amis de l'histoire, une nouvelle aventure de la Société d'histoire Saint-Paul-et-Mort. La Société vous offre maintenant la possibilité de connaître des tranches d'histoire de nos quartiers, et le tout sous forme de balado que vous pourrez écouter à votre rythme sur notre page Facebook Société d'histoire Saint-Paul-et-Mort. Découvrez ici votre balado. Aujourd'hui, nous allons parler du canal de la Chine. Il était inévitable qu'une série consacrée aux lieux historiques de Montréal abordât également certaines grandes places et infrastructures comme le canal de la Chine, sans lesquelles Montréal ne serait pas Montréal. Et ça nous est dit par Guy Pinard dans son livre « Montréal, son histoire et architecture ». Entreprise en 1821, la construction du canal de la Chine fut complétée en 1825, mais l'histoire des canaux canadiens était déjà riche en réalisations. Le premier canal jamais construit en Amérique du Nord fut celui de Coteau-du-Lac. Sa construction fut terminée en 1781 sous la direction du capitaine William Twisch, commandant des Royal Engineers. L'invasion américaine de 1775-1776 avait convaincu le gouverneur général Sir Frederick Haldimand de l'importance des communications fluviales entre le Haut-Canada et le Bas-Canada. Trois écluses à l'époque découpaient les 900 pieds. Le canal avait une largeur de 7 pieds et une profondeur de 30 pouces. L'endroit fut choisi en raison de la dénivellation, parce qu'il y avait une dénivellation de 84 pieds sur une distance de 8000, la plus importante du Saint-Laurent. Suivirent en 1783 les canaux du rapide de la Faucille, du Trou du Moulin, tous deux de Pointe des Cascades, et du Rocher Fendu, 1 000 écarts en amont de la pointe. Le canal des Cascades fut ajouté en 1805 pour remplacer les deux premiers. Les autres canaux, comme le canal Rideau, Welland, Saint-Anne de Bois-Noir, de Soulanges, etc., vinrent après le canal de la Chine. Bien avant la construction de la voie maritime du Saint-Laurent, ces canaux permirent de relier Montréal à l'extrémité occidentale du lac Supérieur, une distance de 1305 milles avec dénivellation de 537 pieds. On parle en pieds ici et non en mètres, parce qu'à l'époque, dans l'écrit de Guy Pinard, c'était les milles à ce moment-là. Donc, le saut Saint-Louis ou le rapide de la Chine, parce que ça s'appelle comme ça aussi, le rapide de la Chine, c'est le saut Saint-Louis, a toujours représenté un obstacle quasi insurmontable pour le développement de la colonie. Dès 1541, les rapides avaient empêché Jacques Cartier de remonter encore plus loin le Saint-Laurent. D'ailleurs, jusqu'à la construction du canal de la Chine, la seule façon de franchir la dénivellation des rapides, 29 pieds et demi sur une distance de 5900 pieds, c'était à l'aide d'embarcations spéciales, des bateaux à voile plat, en pin, étroits, à l'avant et à l'arrière à la manière d'un canoë. Ces bateaux de 40 pieds sur 10 pieds remontaient le courant, allés à bout de bras le long du fleuve. Allés veut dire tirer, à bout de bras le long du fleuve. Les premiers colons cherchaient donc très tôt un moyen de contourner le saut Saint-Louis. Entre Montréal et la Chine, la voie la plus naturelle suivait la rivière Saint-Pierre et le lac à la Loutre, aussi connu sous le nom de lac Saint-Pierre. Au pied de la falaise sur laquelle serpentait la route Upper Lachine Road, entre la tannerie des Rollins à Saint-Henri et le village de Lachine. Le premier projet vers 1680 émana du supérieur général des Sulpiciens, François Dollier de Casson, qui reprit l'idée émise une dizaine d'années plus tôt par le Sulpicien François de Salignac, Fénelon, qui était le frère de l'archevêque de Cambrai. Après 9 ans de déception, D'Olier de Casson vit enfin aboutir son projet le 13 juin 1689. Mais à peine les ouvriers s'étaient-ils mis à l'œuvre que le massacre de la Chine vint mettre abruptement fin aux travaux dans la nuit du 4 au 5 août. Donc, c'est un début pour l'histoire du canal de la Chine, et dans les prochains balados suivront la suite.